Je l'avoue, ce mardi, j'ai fait quelques infidélités à ma radio, ou à l'une de mes rares radios préférées, France Inter. Alors, je tourne les boutons sur les grandes ondes, je vais vers la droite, j'écoute, vous savez bien quoi, et puis je reviens vers 12h58 par hasard, je sais pas pourquoi, j'en avais ras-le-bol de la radio que j'écoutais, radio privée, et ça parle sur France Inter, je me dis c'est pas possible, et ça parle de bourse. Et le remplaçant de Jean-Pierre Gaillard, je ne sais plus son nom, Jean-Pierre Gaillard, il faut lui donner des nouvelles, nous annonce la bourse. Et hop, aussitôt un message dit qu'il y a une grève et on remet la musique. Écoutez, il faut que vous le sachiez, les gens du maquis là, vous avez quelques collabos dans la place qui quelques minutes continuent à essayer de nous parler de la bourse. Seule info de la journée, seule chose à part la musique... la bourse, il y avait une pub, je crois que c'était une pub sur la bourse, et ensuite les indices, le CAC, vous savez ce que je fais sur le CAC, moi, le CAC, bon, je vous le ferai pas, mais en tout cas vous devinez, hein, et, ah là là, ne pas oublier de tirer la chasse, c'est dégueulasse, franchement.
Aujourd'hui, en France, quand il y a une grève, personne s'en aperçoit. Bah pourtant, nous, auditeurs de Radio France, on s'en aperçoit.
La France est en train de changer. Elle change beaucoup plus vite et beaucoup plus profondément qu'on ne le croit. Désormais, quand il y a une grève en France, personne ne s'en aperçoit.
Oui, bonsoir, enfin bonjour, excusez-moi de vous déranger, c'était simplement pour passer un message au président de la République. Je voulais simplement lui dire qu'aujourd'hui, France Inter fait grève et vraiment, vraiment, ça se remarque. Vraiment, ça se remarque. Enfin, il y a des personnes qui le remarquent. Voilà, je vous remercie. Au revoir les AMG. C'est Jean-Luc de Guyancourt.
Ouais, voilà ce qu'on entend quand on appelle le 115 à 22h.
Vous avez composé le 115, numéro d'accueil des personnes sans abri. L'équipe du 115 est là pour vous informer et vous orienter. Merci de patienter. Nous allons prendre votre appel. Hello, you have reached the 115, the homeless person's hotline. The team of the 115 is there to inform you and help you. Please hold the line. We will take your call shortly.
Здравствуйте. Вы набрали 115. Номер по приему людей без места для проживания.
Il y a un sans-abri qui était planqué dans le bois comme 200 personnes qui est mort il y a deux jours. Il y a un appel mercredi à 18h de l'association Morts de la Rue pour rendre hommage aux 150 sans-abri qui sont morts cette année. Voilà, c'était un message pour Madame Boutin, la ministre de l'Espace Vide. Allez, ciao, c'était donc toujours Bruno Parigi. Allez, ciao, à bientôt. Hein.
Oui, bonjour à tous, bonjour Monsieur Mermet, bonjour à tous les AMG de la Basse IGSUI de France. voilà, donc je voulais laisser un petit message parce que le DAL, je viens de voir, a été condamné à 12 000 euros d'amende pour avoir mis des objets sur la voie publique. Les objets, c'était les toiles de tente pour abriter les 100 domiciles fixes en France. Donc bravo monsieur le président, monsieur le juge d'avoir condamné le DAL à 12 000 euros d'amende, dis donc. Tout ça parce que cette association défend le droit au logement et la dignité humaine. Bravo, j'en connais un qui doit être content là, les idées actuellement. C'est par l'argent que vous pensez détruire les associations, et bien moi je pense que vous vous trompez. Parce que ces gens qui sont dans ces associations, eh ben, ils ont un cœur beaucoup plus rempli que vous, monsieur le juge, qui avez pris cette décision. Et je crois que, eh bien, quand on a la force d'être présent pour défendre les droits humains, je crois qu'eh ben, on aura la force jusqu'au bout et on continuera. Voilà, en tout cas, moi, je suis pas à Paris, je suis dans un autre département, mais je me bats aussi pour la pauvreté. Voilà. Allez, parce que je peux vous dire qu'il y en a beaucoup des gens qui travaillent et qui s'en sortent pas. Il y en a beaucoup, beaucoup, malheureusement. Allez, bon courage à tous et à très bientôt. Bye bye.
Bonjour, je suis Christian, je suis responsable du cinéma René Fallet, situé à Dompierre-sur-Bèbre, en Auvergne, dans l'Allier, au nord de l'Auvergne et au sud de la Bourgogne. Nous attendons très nombreux les auditeurs de France Inter ce vendredi 28 novembre à 20h30 pour la projection unique de Chomsky et compagnie. Cette séance se fera en présence d'Olivier Azam, co-réalisateur de ce documentaire. Le cinéma René Fallet, c'est un cinéma associatif, partenaire du mois du film documentaire, qui va fêter cette année sa 21e année à la fin du mois. Voilà, ciao, à vendredi, au revoir.
Et voilà, Olivier Azam, le réalisateur de Chomsky et compagnie, sera à, et ben dans ce cinéma, là, vendredi, en Auvergne. Et vous savez, c'est le grand jour, c'est la sortie de Chomsky et compagnie aujourd'hui même. Et donc, voilà, et ben vous allez pouvoir maintenant vous précipiter dans votre salle préférée pour voir ce film. Ce soir, ce sera au cinéma Saint-Michel, à Paris. Je crois que la séance est à 20h, mais je crains que la salle soit bien petite. En tout cas, tentez votre chance, on y sera pour un débat après le film avec ceux qui ont travaillé sur ce chef-d'œuvre qu'est notre Chomsky et compagnie, qui est programmé dans 120 salles, c'est quand même pas mal. Et puis à Alger aussi, on essaiera d'aller là-bas animer des débats autour du film. Voilà. Sinon, eh bien, merci à tous ceux qui étaient hier soir au théâtre de Jazet pour assister au scandaleux procès fait à l'homme politique le plus populaire de France, c'est-à-dire Bernard Kouchner. Vous étiez 400 hier, c'était très sympa, très rigolo. On a passé une délicieuse soirée. N'oubliez pas que la deuxième partie de l'audience, c'est lundi prochain à 20h, toujours au théâtre de Jazet. Et nous vous y attendons donc ce lundi prochain. Aujourd'hui, ça c'est une belle promenade que nous allons faire avec François Ruffin dans un pays ensoleillé, dirigé par un prince magnifique. Oui, pour la première fois, le prince de Monaco lui-même va passer dans l'émission là-bas, si j'y suis. C'est la première fois en bientôt 20 ans que Son Altesse Sérénissime passe dans cette émission. C'est quand même un très très grand moment. Et c'est la première fois aussi, il faut bien dire aussi, que François Ruffin va à Monaco visiter ce charmant pays. Et on va voir comment le verre lave plus blanc. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Viennent ici, viennent deux heures d'arrêt. Les auditeurs modestes et géniaux sont priés de se rendre au deuxième rendez-vous du repère de Vienne, dans l'Isère. Une seule phrase. 20% de l'humanité s'approprie plus de 80% des ressources naturelles. Un constat à faire trembler un trader. Eh ben, ça sera Monsieur Paul Ariès, politologue de caractère, qui se chargera de décortiquer cette affaire en animant une conférence et un débat autour du thème « La décroissance, naissance d'un projet politique ?» pour l'interrogation. Ça se passe ce jeudi 27 novembre 2008, à partir de 19h45, au Bougalou Bar, 1 place des Carmes, à l'angle de la rue Mermet, et ouais, à Vienne. Une info ? Eh ben, envoyez un petit mail à ici-nous-y-sommes@gmail.com. À jeudi, les amis. Ciao, ciao.
Oui, allô, bonjour, les amoureux de Dijon. Ici Alain, un AMG du Pas-de-Calais. C'était pour vous soutenir et pour vous dire de résister, de faire éventuellement une grève dure. Vous n'êtes pas loin de Besançon et de Charles Piaget, qui est encore vivant. Allez lui demander des conseils. Et il y a Internet maintenant, on est prêt à vous soutenir, faites un petit compte PayPal, on vous soutiendra. 1 euro, c'est... beaucoup de gens sont prêts à vous soutenir. Voilà, bon courage. Ah, une chose encore, Unilever, ça me rappelle quelque chose, je crois qu'ils avaient un compte à Clearstream en 2001. Ouais, allez, bon courage.
Bonjour, c'est le repère de là-bas si j'y suis, Vendée Nord. Attention, changement de date, on se retrouve demain, mercredi, de 20h à 22h, Café La Pitchouli à Chaland. Et on parlera entre autres du film Nos enfants nous accusent de Jean-Paul Jaud qui passe ce soir à La Roche-sur-Yon. La santé, les polluants, l'agriculture bio. et que plusieurs d'entre nous auront vu. Voilà, à demain.
Bah dites donc les socialos, il n'y a pas de quoi être fier. Après que la moitié des têtes d'affiche aient tourné leur veste à l'appel de casse-toi pauvre con, voilà que vous nous offrez un spectacle plus que lamentable, si triste qu'il vaut mieux en rire, comme doivent d'ailleurs le faire en se frottant les mains les gangsters qui nous gouvernent. Mais t'es où toi, la personne vraiment de gauche avec un vrai programme qu'on attend tous? Parce que là, ce serait vraiment le moment idéal de te pointer. La place est vide depuis si longtemps.
Bonjour, bon après-midi, bon voyage aussi. En effet, nous avons quitté le studio. Vous voyez, le soleil est là, le ciel bleu, la mer, les palmiers aussi. Tout en restant à l'intérieur de l'Hexagone, nous allons découvrir un pays étranger, un petit pays étranger que l'on connaît parfois assez mal. Il s'agit de la Principauté de Monaco. Vous connaissez la formule d'aujourd'hui, madame. Ces voyages, nous les faisons toujours avec une téléspectatrice pour découvrir ces régions de France mal connues ou ces pays à travers les yeux de cette téléspectatrice.
Oh, quelle belle journée! Y a-t-il au monde un endroit aussi beau que ce coin de paradis? Regardez la couleur de la mer et ce ciel et cette petite villa rose et verte sur la colline.
Salut, c'est Daniel Mermet avec François Ruffin. Là-bas, si j'y suis, dans un pays ensoleillé, dirigé par un prince magnifique, Monaco.
Vous voyez, ça, c'est l'arrière de la maison de ma mère.
Il y a le palais princier juste en face de vos locaux.
Oui. Hein.
Il y a votre mère qui habite de l'autre côté.
Mon frère au-dessus, vous voyez, c'est très Naples hein, comme système.
Donc c'est la famille qui est installée.
Oui, c'est la famille, exactement.
Alors là, on est chez vous, et le décor, c'est un mélange de modernité et de tradition. C'est des horloges anciennes et des peintures contemporaines. Alors par exemple, cette toile...
C'est une toile de Kosolapov, qui est un artiste russe qu'on a acheté avec mon frère à New York il y a une quinzaine d'années. On a payé ça une misère.
Alors, cette toile représente...
Elle représente des boîtes de caviar.
30 boîtes de caviar, avec écrit caviar dessus.
Et en fait, on a mis ça dans notre storage, parce qu'on fait tourner les choses. Et on s'est aperçu que, en fait, ça valait très cher dans une vente aux enchères, parce que depuis, il y a le miracle russe qui est arrivé. Et donc, on l'a rapatrié, parce que c'est mieux que ce soit dans nos coffres-forts sur le palais.
Voilà, Philippe s'occupe de moi. Okay. Pour la cuisine, alors?
Pour la cuisine, il me suit, il s'occupe de tout. Voilà. Il veille sur moi.
Ah ouais, ça va, Antonella.
Antonella s'occupe de...
Antonella s'occupe de mon frère.
Et voilà, nous y sommes entrés dans Monaco et le rêve devient réalité. L'atmosphère luxueuse qui y règne donne l'envie de vivre un conte de fées à la manière de Grace Kelly. La principauté de Monaco et son célèbre rocher princier s'étendent entre la France et la Méditerranée. Visitez Monaco, ville et son palais princier, son célèbre aquarium et Monte Carlo avec ses palais et son casino. Pas étonnant que cette destination ne cesse d'attirer les nombreux touristes dans ses filets. Seul, à deux ou en famille, la principauté saura vous émerveiller et vous proposer, outre ses paysages, côtiers et paradisiaques, toutes les activités nécessaires à votre épanouissement. À visiter au moins une fois dans sa vie, et vous verrez, à peine parti, ses visiteurs rêvent d'y retourner. Voilà l'heure que nous allons passer ensemble, chers AMG, chers auditeurs et auditrices, modestes et géniaux, modestes et géniales, dans ce pays de rêve. Non seulement un pays de rêve, mais un pays où on a une conscience, une vraie conscience. On est conscient des problèmes de cette planète et de notre monde contemporain aussi. Le prince a-t-il tenu à développer une politique humanitaire et une politique écologique? C'est ce que nous allons découvrir ensemble grâce à François Ruffin. N'oubliez pas, chers amis, sous la soutane de la vertu se cache le gourdin de la cupidité.
sommes pétris d'arrogance et de vice. A des résidences à Samos, aux Bahamas et à Byzance. Son épouse à Samothrace et sa maîtresse en Cappadoce. Des unes aux autres, ils sont à bord de son jet monoplace. C'est jour après jour, il amasse tant et plus de caillards. Ce carrasse populos, c'est un cadre du négoce. Expert en la manipulation des liasses et des masses. Rasta populos possède des palaces à Nice, des bouges à Florianopolis, des casinos à Las Vegas, des usines à Mulhouse qu'il délocalise à Lagos, afin de raquer moins de charges et pouvoir faire bosser des gosses. Et il danse, le sirtaki de la haute finance, le sirtaki de la toute puissance. Au rythme des indices de croissance, il dansera jusqu'à l'ivresse. Et il danse, au son de la fanfare de sa milice. Il danse avec d'autant plus de délices qu'il sait qu'un beau jour il aura dans l'os qu'elle est resta populos.
Vous avez des potes Jean-Pierre Reynaud. Vous connaissez Jean-Pierre Reynaud? Enfin, Jean-Pierre Reynaud est un artiste contemporain français très connu et on lui a fait faire des pots assortis à la maison.
Là, il y a des pots donc, d'un artiste contemporain sans fleurs pour l'instant à l'intérieur.
Ouais.
C'est l'automne.
Ouais. Non, il n'y a pas de fleurs, ils sont fermés. Non, il n'y a pas de fleurs.
Bah, c'est triste, des pots de fleurs
non.
sans fleurs.
Bah, c'est la spécialité de Jean-Pierre Reynaud. Il a créé des pots qui n'avaient pas de fleurs, jamais, qui étaient des pots fermés.
Là, on se balade le long des remparts avec le port
et voilà, David
en dessous de nous.
S'occupe du jardin.
Bonjour, monsieur. Il y a beaucoup d'employés de service comme ça.
Oui, il y en a pas mal, mais bon, c'est... En ce moment, c'est un petit peu agité, pour ne rien vous cacher. À cause des problèmes boursiers, oui, et financiers.
Et donc, qu'est-ce que vous faites? Alors, vous revendez en ce moment?
Non, on ne vend pas, surtout pas. Non, non. On aurait plutôt tendance à racheter, mais pas à vendre.
Le krach financier de ces derniers jours vous inquiète?
Ah oui, oui, oui. Non, mais oui, bien sûr que c'est inquiétant, c'est préoccupant. Mais je fais confiance à l'administration américaine qui, dans ce domaine, sont les plus pragmatiques et les plus réactifs pour pouvoir régler le... Et il faut que le Congrès vote ce plan immédiatement. Ça fait partie d'un grand privilège et des gentillesses de la famille souveraine et du prince de nous laisser nous garer place du palais.
Est-ce que tu crois?
Bah dis donc, vous avez du personnel quand même pour un homme ordinaire à Monaco, un chauffeur et un attaché de presse.
Non, mais c'est pas du personnel, c'est des collaborateurs. Gérard, il est avec nous depuis 10 ans et il connaît toute la famille, donc il est. C'est comme un membre de la famille. Vous savez, les gens, quand ils rentrent dans nos affaires avec nous, ils rentrent dans notre famille.
Bien sûr, c'est des histoires de famille. Et celui qui parle, c'est Laurent Nouvion, qui est un homme d'affaires, rentier à Monaco, élu de l'Assemblée de Monaco. Alors c'est quand même un personnage important qui nous montre l'importance de ce tout petit pays, de ce petit confetti, mais qui est important, est très très important, surtout pour certains qui appartiennent à la famille. Découverte et panorama.
Quand vous regardez face à la mer, c'est-à-dire où on a la Corse en face,
voit la Corse là ?
Alors on la voit pas aujourd'hui parce qu'il n'y a pas eu de Mistral. Là, on est devant véritablement l'anse du Portier, qui était la dernière petite plage naturelle. Vous voyez qu'elle est en train de disparaître malheureusement. Et là, il y a le projet d'extension en mer qui a été lancé par son Altesse Sérénissime le Prince Albert II il y a maintenant 3 ans. Il y a un projet ici qui est la construction d'une patinoire, enfin d'un bowling pour les jeunes, parce qu'il n'y en a absolument pas à Monaco. Et vous voyez qu'il va s'inscrire entre un sol qui est pratiquement sur l'eau, la voie rapide et l'entrée du tunnel.
J'étais jamais venu à Monaco, mais j'imaginais que c'était des plages de sable chaud avec des femmes au sein nu sur la plage.
Oui.
Et en fait, j'ai pas vu un seul bout de plage pour l'instant. C'est vrai qu'on voit des voies rapides, des tunnels, des cailloux, des bulldozers, mais j'ai pas tellement vu
les
femmes au sein nu, quoi.
Je comprends votre déception, notamment sur la dernière partie. Alors, il y a une plage. Il y a une plage qui a été créée de toute pièce, qui est la plage du Larvotto.
Heureusement que vous m'indiquez les bons endroits.
Voilà, mais bon, aujourd'hui, c'est en train de se couvrir, donc je suis pas sûr que vous verrez... Vous verrez beaucoup de nymphes dénudées, mais il n'y a pratiquement pas de plage.
L'un des grands engagements politiques de son Altesse Sérénissime Albert II, c'est de donner un côté environnemental à Monaco. Là, je vois que la dernière plage naturelle, vous me dites, est en train d'être détruite. Je vois qu'il va y avoir encore beaucoup de béton de coulée.
Le prince est très préoccupé par ça, parce que bien entendu, il sait bien qu'on va lui reprocher ce genre de choses. Effectivement, vous me direz, si je faisais partie d'une association écologiste en disant « mais comment est-ce qu'on peut faire ça ?» Le prince parle d'environnement et on va bétonner une partie des fonds. Je crois qu'on peut faire toute confiance au prince, dont c'est véritablement la nature profonde. Il ne fera pas quelque chose qui dénaturera son pays et le rivage. En tous les cas, on lui fait confiance sur ce point-là, comme sur beaucoup d'autres d'ailleurs.
Lorsqu'il succède à son grand-père, le 9 mai 1949, Rainier, jeune prince de 26 ans, hérite une principauté vieillissante, coincée entre mer et montagne. En 56 ans de règne, il la transforme en une entreprise à succès et consolide sa souveraineté. Son mariage avec l'actrice Grace Kelly renforce l'image glamour du rocher. Monaco devient le paradis de la jet set, l'argent coule à flot. En 1966, Rainier nationalise purement et simplement le casino et les principaux hôtels et restaurants du Rocher. Et pourtant, il dit vouloir lutter contre cette image de Las Vegas de la Côte d'Azur. Monaco devient un centre d'affaires international, une place bancaire de premier ordre, 45 banques, 10 fois plus de comptes ouverts que d'habitants. Rainier est également surnommé le prince bâtisseur. Il augmente la superficie de Monaco de 20%, gagnant près de 40 hectares sur la mer. Dernier délire architectural, une digue géante pour créer un port en eau profonde.
De Monaco, s'il vous plaît, monsieur.
De Monaco.
Ouais, de Monaco, merci. Didier Laurence, là, vous êtes en train d'avaler une gorgée de Monaco, donc bière grenadine. Vous êtes l'ancien rédacteur en chef de Monaco Hebdo. Bon, il y a des choses dont j'étais pas surpris à Monaco. Voir des Bentley, des Aston Martin.
Ah oui, il y en a beaucoup.
Je m'attendais à avoir des belles plages. Et en fait, c'était du béton et des voitures un peu partout.
Monaco, c'est le rêve architectural de la France des années 70. C'est-à-dire qu'on doit trouver sur 2 km² ce qu'on a pu construire de plus laid au monde. Quand vous vous promenez dans Monaco, ce qui est frappant, c'est que tous les immeubles anciens qui avaient un petit peu de caractère, les immeubles en pierre de taille, tout ce qu'il y avait pu y avoir, toute la ville qui a été livrée donc à l'appétit des promoteurs, bah les promoteurs, ils ont cassé les trucs qui étaient jolis pour construire des immeubles qu'ils ont vendus à prix d'or au-dessus, quoi. Il faut aller voir Monaco parce que c'est prodigieusement laid. Je crois qu'à la limite, ce qui est le plus intéressant dans la principauté, c'est l'incroyable, son incroyable laideur architecturale.
Il reste une plage.
Alors, le Larvotto, ouais. Alors le Larvotto, c'est tout petit. En fait, les gens ne viennent pas à Monaco pour se baigner. J'avais demandé à mes journalistes de me faire un papier. Que font les gens quand ils sont à Monaco? Parce que je ne comprends pas ce que les gens viennent faire à Monaco. Alors, il y a les hôtels de luxe avec des piscines. Apparemment, ils vont se tremper dans les piscines. Ils sont en appartement entre eux, donc entre très très riches. Il y a des boîtes un peu chic où on trouve plus ou moins des filles, mais pas beaucoup. Un peu de drogue, mais pas énormément. C'est assez tenu, tout ça. C'est pas si latin que ça, Monaco. Le fric est un peu discret, à part les voitures. Là, ils montrent qu'ils ont du fric avec les voitures. Mais sinon, les immeubles sont laids. L'argent coule pas à flot dans les rues. Les gens sont mal payés. Mais pour le reste, la vie est assez banale.
Vous êtes baigné au Larvotto ?
Ouais, une fois. Alors, je suis sorti de l'eau. Et quand vous sortez de l'eau, vous avez d'un côté les méduses, quand vous n'avez pas de chance, quand il fait très chaud. Et juste en face, la barre d'immeubles. Vous avez l'impression d'être à la Courneuve. Et vous êtes dans une mare à la Courneuve. Vous sortez de la mare et en face, vous avez les barres d'immeubles. C'est ça, le Larvotto.
Eh ben. Didier Laurence, auteur de Monaco, un pays ensoleillé, dirigé par un prince magnifique, aux éditions Hachette Littérature,
Ouhou, pas très flatteur le Didier Laurence, hein. Quand il dit que c'est la Courneuve, ouais, mais enfin à la Courneuve, est-ce qu'on trouve des, par exemple, un appartement de 30 mètres carrés, ce qui n'est pas un très grand appartement, avec un loyer de 1 250 € par mois, un 70 mètres carrés à 4 500 € par mois, un appartement plus grand dont on ne donne pas la surface sur cette annonce à 25 000, bon, je vous en fais un autre à 37 mètres carrés, 2 400 €, c'est quand même coquet. Alors, vous avez des 5 pièces à 22 000 €, le mois, celui-là, il est 200 mètres carrés, 21 000 €, etc. Enfin, il faut quand même pas être entièrement démuni pour vivre, pour se loger, au moins à Monaco, même si le prince bâtisseur a beaucoup bâti. Enfin, on voit ce que veut faire ce Didier Laurence, c'est nous désenchanter, alors que nous, qu'est-ce qu'on veut faire? Vous savez bien, c'est vous enchanter, c'est vous cultiver, et puis c'est vous faire aimer aussi l'environnement, la nature, et puis aussi l'humanitaire et toutes ces belles choses qui gonflent le cœur. Nous sommes responsables, nous sommes des citoyens responsables, des consommateurs responsables. Alors, allons-y.
Monaco.mc, Monsieur Ruffin pour France Inter et Yann Masson pour Monaco Matin.
Bonjour.
Voilà, je pense que ça va se passer de manière assez informelle.
On se trouve là, à côté du musée océanographique, où il y a une exposition de Laurent Balesta sur les fonds marins. Laurent Balesta, c'est le photographe de Nicolas Hulot. Il faut savoir que Nicolas Hulot, c'est un peu le modèle de son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, puisque, comme Nicolas Hulot, le prince Albert II va faire des expéditions au pôle Nord, des plongées sous-marines. Comme il dit, c'est s'amuser écolo. Jouir, mais jouir écolo, tout en ayant un prétexte environnemental. Donc là, on va aller rencontrer Monsieur Bernard Fautrier, qui est responsable de la fondation Albert II et qui vient pour le vernissage de cette exposition.
Merci à vous de nous apporter toutes ces belles choses. Merci qui, incontestablement, j'espère, vont enchanter les visiteurs.
Alors là, on se trouve à côté du musée océanographique. L'exposition qui est en cours, j'ai vu au musée océanographique, c'est sur les glaces polaires. C'est marqué pour les générations futures. Oui. On sait que le prince s'est rendu.
Il s'est rendu une fois au Spitzberg en 2005 et une fois au pôle Nord en 2006.
Voilà, avec des chiens de traîneau, je crois. Il avait remercié les chiens de traîneau à l'arrivée de la course.
On pourrait ajouter les explorations de la forêt primaire qu'il a fait notamment en Indonésie en 2007. Et puis, on peut aussi dire qu'il se rendra à nouveau prochainement en Antarctique, toujours dans ce souci de témoigner sur ce que sont les conséquences négatives sur ces milieux naturels, tout à la fois très précieux et très fragiles.
Il n'est pas nécessaire d'être un grand pays pour avoir de grands rêves, et il n'est pas nécessaire d'être nombreux pour les réaliser. Sur les traces de son arrière-arrière-grand-père au Spitzberg, lors d'une mission pour l'environnement, Albert II se rappelle cette devise familiale. Mais le nouveau souverain veut passer du caritatif au politique. Chef d'État plus ambitieux qu'il n'y paraît, Albert II a immédiatement cassé cette image de paillette qui colle à la peau de Monaco et lancé un véritable programme politique. Son but est clair, faire de Monaco la plaque tournante de l'humanitaire et de l'environnement. Le Rocher est l'un des endroits les plus petits mais les plus riches du monde et il entend consacrer une part croissante de son budget au défi de la planète.
C'est pour cela qu'il a créé sa fondation il y a 2 ans.
L'une des actions que j'ai vues sur votre site, c'est notamment la réintroduction des gypètes.
Oui.
Je crois qu'on dit comme ça.
Oui.
Ça s'écrit gypaète, mais ça
oui.
se dit gypète.
Oui.
Dans le parc du Marcantour.
Oui, oui, oui. Alors, c'est un programme qu'on a lancé pour réintroduire cet oiseau, qui est un oiseau absolument merveilleux, qui avait pratiquement disparu de l'arc alpin. C'est un vautour, d'ailleurs en anglais ça s'appelle bird vulture. Alors il est toujours barbu, mais il est tout simplement vautour.
C'est vrai qu'il a l'air d'être barbu.
Voilà.
Le budget de votre fondation est de 6 millions d'euros par an, à peu près.
Oui, un peu plus.
Un peu plus de 6 millions d'euros par an. Il va y avoir un programme immobilier à Monaco, un programme de conquête de la terre sur la mer.
Oui.
Et ce programme va s'élever à une hauteur de 8 milliards d'euros,
oui.
c'est-à-dire 1000 fois plus,
oui.
à peu près 1000 fois plus oui. que le budget de votre fondation. Oui. Finalement, c'est y a une petite partie pour l'environnement et il y a une grosse partie pour l'immobilier quand même.
Vous me parlez du projet d'urbanisation en mer. Je ne pense pas qu'on puisse mettre à côté des chiffres qui n'ont rigoureusement rien à voir.
Se trouvent à Monaco aujourd'hui les plus grands pollueurs de la planète.
une heure d'un yacht, c'est près de 1000 litres de carburant qui sont consommés. Le prince Albert II lui-même, d'ailleurs, a un jet privé, circule beaucoup entre les continents et ainsi de suite. Ce sont les hommes qui sont finalement les plus grands pollueurs, qui émettent le plus de signes pour dire il faut s'intéresser à l'environnement.
De même qu'on peut dire aujourd'hui à quelqu'un qui conduit une voiture d'avoir une conduite éco-efficace, on peut aussi penser, dire à un utilisateur d'avoir lui aussi une conduite éco-efficace.
Ça serait quoi une conduite éco-efficace d'un yacht ?
La compensation volontaire des émissions est un geste, je dirais, volontariste de préoccupation éco-efficace, puisque les gens vont volontairement payer pour financer des opérations, qu'ils ont des opérations qui réduisent par ailleurs les émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est une attitude éco-volontaire.
Vous ne croyez pas que quand des personnes fabriquent du dioxyde de carbone pour 500, 1000, voire plus de personnes, il faudrait soit interdire des comportements aussi consommateurs d'oxygène, soit que ça soit obligatoirement taxé et que ce ne soit pas inversement volontaire?
Alors, dans la mesure où nous ne sommes pas dans des systèmes économiques totalitaires, et je ne parle pas de Monaco, on est quand même dans une économie libérale, moi ce que je crois, c'est qu'il est bien de proposer aux gens de se responsabiliser volontairement.
Donc de responsabilisation volontaire des gens.
Tout à fait.
Monaco is known for the rich and famous people living there.
Tout le monde connaît Monaco et les gens riches et célèbres qui y vivent.
They obviously know what high quality is.
Ces gens-là s'y connaissent en qualité.
So it's not astonishing.
Alors ce n'est pas vraiment une surprise que tout le monde s'intéresse à la nouvelle BMW Hydrogen Series 7.
Especially this man is highly interested in the Hydrogen 7.
À commencer par cet homme que vous voyez à l'écran.
Prince Albert of Monaco.
Le prince Albert de Monaco.
La
combinaison de grand plaisir de conduite et de technologie verte m'ont convaincu.
Prince Albert is just one celebrity using the new BMW.
Le prince Albert n'est pas la seule célébrité à utiliser la nouvelle BMW. Eux la conduisent déjà.
J'attends son Altesse Sérénissime, le prince Albert II. Il y a une cinquantaine d'officiels, quelques journalistes qui attendent l'arrivée du prince Albert II. On m'a bien prévenu qu'il ne fallait pas que je pose des questions. Ça serait très malvenu. Il se met à pleuvoir. Service de sécurité, c'est ça ?
Je ne contrôle pas la pluie encore.
Pardon ?
Je ne contrôle pas la pluie.
Bonsoir, Franck Thibault, service de presse.
Bonsoir.
Je vous demande de ne pas solliciter le prince à la volée.
Voilà son Altesse Sérénissime, le prince Albert II qui arrive.
Alors voilà, vous le voyez ? Étonnant, non ? Émouvant ? Le prince Albert traverse l'émission. Là-bas, si j'y suis, il est 15h37 sur France Inter. Et voilà. Pas question de lui adresser la parole, bien sûr. On respecte la consigne. De quoi parlerait-on avec le prince ? Peut-être des paradis fiscaux ? Oui, Monaco est un paradis fiscal. Bien qu'on s'en défende ici, sur le rocher, il faut rappeler que les paradis fiscaux drainent, selon l'estimation, 54,2% des capitaux licites et illicites détenus hors frontières, soit plus de 5 000 milliards de dollars. La moitié des flux de capitaux internationaux transitent ou résident dans les paradis fiscaux. C'est entre 600 et 1500 milliards de dollars d'argent sale qui y circule. Les paradis fiscaux détiennent 26% des capitaux du monde et ne représentent que 1,2% de la population mondiale. L'activité des paradis fiscaux gère environ 20% de la richesse privée mondiale. Le tiers de la richesse des particuliers les plus aisés, soit 6 000 milliards de dollars, sont détenus offshore. Monaco, paradis fiscal, se maintient avec la complicité du gouvernement français. Le Luxembourg est devenu un paradis fiscal pratiquant le secret bancaire sous pression convaincante des banques de Francfort et Jersey sert très directement la plateforme pour la City de Londres. Mais de tout ça, nous ne parlerons pas avec le prince préoccupé d'humanitaire et d'environnement.
C'est le crabe du décombre qui vit dans les profondeurs de la Papouasie, mais qui n'est pas connu parce qu'il ne sort qu'au cœur de la nuit.
Sur terre, c'est le cas de le dire, sur ces histoires vertueuses, l'humanitaire, et l'écologie, un peu partout sur la planète, vous avez compris, on vous roule dans la farine blanche, mais désormais c'est avec du verre. C'est le verre qui lave plus blanc, le verre green. Voilà ce qu'en pensent Sophie Livry et Vincent Chenet.
Alors, Sophie Livry et Vincent Chenet, vous êtes journaliste au journal La Décroissance. Je me suis rendu à Monaco. Monaco, ça m'est apparu comme la capitale de l'écologie. C'est-à-dire, il y a certes un salon du yacht, mais les documents sont imprimés sur du papier recyclé. Il y a certes un bétonnage des côtes, mais on introduit des gypettes, donc c'est un genre de vautour, dans le parc du Mercantour, et je pense qu'ils vont pas tarder, à lors du Grand Prix de Formule 1, à mettre des pots catalytiques.
Monaco, c'est vraiment un endroit qui est le paradis des écologistes, notamment grâce au prince, grâce à Albert II, qui est un grand écologiste. D'ailleurs, il a fait plusieurs fois Paris-Dakar, il est président du Yacht Club de Monaco, et il est parrain de la Patrouille de France.
Paris-Dakar, Patrouille de France, ça prouve un amour de la nature, tout ça.
Oui, tout à fait. On s'aperçoit que tous les gens un peu comme Albert de Monaco, tous les grands monarques aujourd'hui, les stars, Brad Pitt et autres, ils sont tous écolos. Donc, ils ont tous une envie formidable de sauver la planète. En fait, c'est des gens pour qui la planète était une sorte de terrain de jeu. Et puis, à un moment, ils se sont aperçus que leur terrain de jeu était pollué. Je vous le dis, 20% de l'humanité consomme 80% des ressources naturelles. Alors, derrière cette espèce de pseudo-écologie, bien sûr, il y a une certaine doctrine, une certaine logique, qui est celle du greenwashing, qui est celle de ce que nous appelons l'éco-tartufferie.
Greenwashing, vous traduisez ça en français par éco-tartuffe.
Et le greenwashing, à proprement parler, c'est ce qu'on pourrait traduire par blanchiment vert. C'est-à-dire, ce serait, on blanchirait, en fait, ce qu'on fait en tant que hyper riche pour en mettre une couche écologique par-dessus. Par exemple, Édouard Leclerc et ses grands temples de la consommation fait en permanence des opérations sur le développement durable, passe son temps à faire de la communication sur le fait qu'il économise ici une ou deux palettes ou ici un ou deux avions et ici il réduit un petit peu le pactage de certains yaourts en disant, regardez, je sauve la planète. Et donc, ça permet de blanchir tout le reste de ses activités qui est absolument une catastrophe sociale, écologique. C'est ça le greenwashing. C'est...
Donc on ne blanchit plus, on reverdit, quoi.
Voilà. En fait, toute cette oligarchie-là, d'ultra-riches que tu as pu voir à Monaco, quelque part, moi je pourrais la comparer à celle qu'on voit dans le film Le Guépard, la grande famille aristocratique richissime, très très chic. Donc le prince Salina, quand il voit la révolution arriver, parce qu'il est quand même en Italie, justement, il y a des grandes différences sociales, il dit, il faut bien que quelque chose change pour que tout reste comme avant. Mais le développement durable, pour cette oligarchie-là, aujourd'hui, c'est face à la crise écologique, ce qu'il faut un petit peu changer pour que tout reste comme avant.
J'ai rencontré le responsable du yacht show, qui était un gars par ailleurs pas mal, quoi. Mais lui, finalement, il se dit, bon, il n'y a pas la possibilité de changer le monde, il n'y a pas la possibilité de changer le système. Tout ce qu'on peut faire, c'est faire des petits gestes, des éco-gestes, chacun à notre place, quoi.
Derrière cette logique écologique, il y a une logique de soumission. C'est de dire, l'argent est au centre du monde. Ce qui meut aujourd'hui l'humanité, c'est la cupidité. Il faut en prendre acte. Être réaliste, c'est prendre acte de cela. L'argent domine le monde. Nous n'y pouvons rien.
Quand on va là-bas et qu'on discute d'environnement avec les gens qui sont responsables de ça, finalement, on a des gens relativement sincères en face de nous. C'est comme s'il y avait une sincérité des individus qui masquait la perversité du système.
Mais ça, qu'il y ait une sincérité des individus, ça n'enlève rien au problème.
Même le prince Albert, il m'a l'air sympa, moi.
Ouais, mais Nicolas Hulot, il est hyper sympa. Il y a plein de gens qui sont très, très sympas. Et on trouve des étudiants qui sortent d'un master développement durable et qui seront ravis de faire ça, en plus à Monaco, sur des yachts ou dans les grandes entreprises en étant bien payés. On rajoute la passée verte sur ce système-là et on continue.
Au casino, chef-d'œuvre de pâtisserie construit par Garnier, la décoration rococo a gardé toute sa fraîcheur. L'année dernière, à Monaco, on a joué comme on jouera cette année encore, selon les rites.
Là, on trouve enfin l'image de Monaco qu'on attendait. Là, on a les palmiers.
Oui.
On a des fontaines assez grandes. On a un magasin Chanel. On a le casino.
On est sur le plateau de Monte Carlo, en fait, et qui surplombe la mer. Et c'est là où a été construit le casino, l'hôtel de Paris et le café de Paris.
Donc là, il y a le casino en face de nous. Vous n'avez jamais été tenté d'aller y jouer?
Ah ben, je peux pas y jouer parce que les casques, on leur suggère de ne pas aller jouer au casino. Ça fait partie des règles non écrites que chacun s'applique.
Et il y en a d'autres, des règles non écrites
Il y a des règles de courtoisie, de savoir-vivre, y compris sur la famille princière, parce que c'est notre famille et qu'on lui appartient et que donc il y a des choses qu'on ne dit pas et c'est comme ça.
Voilà. C'est-à-dire qu'on polémique pas à propos du prince comme on polémique en France à propos de Nicolas Sarkozy?
Non, pas vraiment. Non, il y a un respect. D'ailleurs, c'est dans l'article premier de la Constitution qui est très important.
Qu'est-ce qu'il dit cet article ?
Il dit que la personne du prince est inviolable et que tout est dit.
Donc vous avez confiance dans le prince Albert II ?
J'ai totalement confiance parce que c'est un, avec tout le respect que je lui dois, c'est quelqu'un qui est très posé, qui est très mesuré, qui a son rythme. À Monaco, il y a une règle, c'est la monarchie. Point. Et je pense que ça. Personne que vous pouvez interroger dans le pays ne le remettra en cause, heureusement. J'espère.
Alors là, on passe à côté d'une Bentley décapotable.
Oui. C'est vrai que c'est un endroit assez incroyable parce que vous avez, on appelle ça le camembert du casino, et vous avez une Bentley, une Aston Martin, une Mercedes.
10 Mercedes.
10 Mercedes, une autre Bentley, un nouveau modèle d'une voiture que je ne connais pas mais qui a l'air incroyable.
Un jet privé?
Non, ça, c'est pas du tout. C'est les Alpha Jet de la Patrouille de France qui passent pour le yacht show. Voilà, vous voyez?
Ah ben, disons, alors
avec
là...
Avec les couleurs françaises.
Ouais, c'est coloré.
C'est en direct, vous voyez? C'est assez sublime. Bon, on va passer, je pense. C'est incroyable, c'est bon. C'est la nouvelle Rolls coupée. Vous n'en verrez pas d'autres. C'est la première que je vois. Regardez. Elle est quand même assez démentielle. Oui, vous trouvez ça qu'ici.
C'est quoi, c'est une Porsche là? C'est Ferrari. J'habite pas à Monaco, alors je suis pas spécialiste. Je sais pas encore reconnaître les Bentley, les Aston Martin, les Ferrari. Les... Toi, tu sais?
Bah oui, on apprend, hein. Tout doucement, à force de rencontrer sur la route tous les jours, bien sûr. Hein.
Et toi, tu circules en quoi? En Aston Martin, Bentley?
Je circule en train et en bus, moi. J'habite à Nice, alors me déplacer tous les jours à Monaco pour venir travailler.
Et ton yacht, tu le gares où alors?
Ah, j'ai pas de yacht, moi. Je suis loin d'en avoir un, d'ailleurs. Moi, je travaille dans une usine qui s'appelle Atoms, qui est chargée de réparer et de tout ce qui est manipulateur ferroviaire.
Attends, tu vas pas me dire que t'es ouvrier à Monaco, quand même?
Oui, bien sûr. Ouvrier dans la métallurgie. Et aussi membre du syndicat de la métallurgie, voilà.
Attends, tu me parles de syndicat à Monaco, là?
Bien sûr. Il y a des syndicats à Monaco, il faut le savoir.
Syndicat des garçons de bain, je viens, à part ça.
Non, syndicat de la métallurgie, syndicat des chimies plastiques, syndicat des hôtels, cafés, restaurants. Non, on est 34 syndicats à Monaco.
Là, c'est la mauvaise influence française. Vous devez être super bien payé et tout ça. Et puis vous venez râler.
Il faut savoir que quand même, Monaco est le deuxième PIB mondial.
Donc vous êtes les deuxièmes salaires mondiaux.
Non, loin de là.
Mais alors, tu gagnes combien alors?
Qu'on appelle le SMIC monégasque. 1460 € brut, qui revient à peu près à 1360 € net. Voilà.
Tu gagnes 1300 € à Monaco?
Voilà, exact.
Là, on vient de partir du Monaco Yacht Show, où il y a des bateaux qui valent 50, 60 millions. Si tu convertis ça en ton salaire, ça fait combien d'années, ça?
50, 60 millions d'euros, je sais
même
pas.
Même 1 million. Si tu décides de n'avoir que 1 mètre de yacht, il te faut combien d'années?
Calcul rapide, il me faudrait peut-être 100 ans, 100, 150 ans de salaire, ou plus, voire plus. On lutte pour avoir des salaires décents, pour pouvoir vivre.
Pas des manifs quand même.
Si, il y a beaucoup de manifestations à Monaco. Il faut savoir qu'à peu près tous les ans, il y a une manifestation à Monaco.
Mais alors, il y a du monde, c'est magnifique, vous êtes trois Pékins, les trois gauchistes de Monaco.
Non, il faut savoir qu'à la dernière manifestation, il y avait entre 4000 et 5000 personnes. Hein.
10% de la population qui est dans la rue, à peu
exactement,
près.
Exactement.
C'est comme si en France, il y avait 5 millions de personnes dans la rue.
Exactement. On va traverser la rue, on va aller... On se dirige vers la zone industrielle de Monaco qui s'appelle Fontvieille.
La zone industrielle
où il y a toutes les usines qui sont concentrées là-bas. Hein. Je parle de Lancaster, de Biotherm, de Mecaplas, de Atoms aussi.
Ils sont où les bâtiments industriels alors?
Ils sont tous là. Voilà, ça c'est un bâtiment industriel, à côté aussi, au fond aussi. Voilà.
Là, dans ces bâtiments-là? Mais ça ressemble pas du tout à des bâtiments industriels.
Et pourtant, ça l'est. Hein.
En fait, on dirait des bureaux, c'est des immeubles de cet étage. Hein. Donc des usines qui sont empilées les unes sur les autres, là, des ateliers.
Ouais, exactement, c'est ça. Tu auras eu un bref aperçu de ce que c'est Fontvieille. Voilà.
Donc là, on n'est pas resté dehors parce qu'il pleut dehors. On est venu à l'intérieur du centre commercial Carrefour. Alors, c'est vrai que quand on voit Monaco, on n'imagine même pas qu'il y a un centre commercial Carrefour. On croit qu'il n'y a qu'un casino et un palais princier, quoi.
Il faut rentrer dans la galerie pour le voir, parce que si vous regardez bien dehors, il n'y a jamais marqué Carrefour, il y a marqué centre commercial. Et c'est qu'une fois que vous êtes à l'intérieur de la galerie marchande que vous voyez Carrefour.
On se baladait dans Monaco, on est monté vers Fontvieille, qui est un peu le quartier industriel.
Donc, il faut bien que le travail se fasse. Donc, c'est vrai qu'il y a des richesses à Monaco, mais la force de travail, ce sont les ouvriers qui la font, quoi, qui la créent. Donc, il y a quand même 40 000 personnes qui viennent quand même toujours à Monaco, entre l'Italie et la France, pour y travailler.
Voilà. Vous êtes monégasque?
Non, moi, je suis français.
Et vous êtes
français aussi.
Et vous?
Français.
Mais c'est une invasion.
Oui, c'est l'invasion. Vous avez beaucoup de Français qui viennent à Monaco, pensant qu'à Monaco, justement, on gagne mieux notre vie. Et c'est un leurre, parce qu'en fait, non, on se rend compte que... Par exemple, nous, à Carrefour, moi, je suis boulanger, j'ai un collègue boulanger à Nice, gagne plus que moi.
Et c'est pour ça qu'on sera en arrêt de travail lundi à 7h, entre 7h et 10h.
Attendez, vous n'allez pas faire une grève quand même?
On va faire un arrêt de travail, un débrayage.
Mais pourquoi vous n'allez pas emprunter dans une banque? Il y a plein de banques où on peut emprunter à Monaco. Par exemple, pour acheter un petit yacht, vous pourriez aller emprunter à...
Par exemple, oui. Je ne sais pas s'ils nous prêteraient, surtout aujourd'hui.
On pourra changer de t-shirt, parce que là, le t-shirt Carrefour... Avec c'est quoi? C'est de la farine ou de la peinture?
C'est de la farine, de la farine.
Vous êtes boulanger aussi?
Boulanger, oui, aussi.
Vous ne traînez pas trop sur le port en allant regarder les yachts et puis tout ça?
Non.
Sauf pour aller manger... pour aller manger deux raviolis qu'on a achetés à Carrefour. Des fois, on regarde un peu les yachts, tranquillement sur un banc, parce qu'on ne peut pas trop souffrir le restaurant.
Vous roulez en Rolls? Vous vivez dans des palaces et voyagez en jet privé? Mais vous ne possédez pas encore de yacht? Il est temps d'aller faire votre marché à Monaco, histoire de compléter votre panoplie de milliardaires. À la fin de l'été, le Monaco Yacht Show est le rendez-vous incontournable des grandes fortunes qui veulent se faire un petit plaisir. N'hésitez plus, les prix sont abordables. Comptez plus d'un million d'euros, le maître de yacht.
Oh, c'est bien, hein. Vous rêvez ou non? Encore un petit coup avec Didier Laurence. L'auteur de Monaco, un pays ensoleillé, dirigé par un prince magnifique, Didier Laurent, je le rappelle, a été grand reporter du journal Monaco. Il a dirigé le Monaco Hebdo, le plus grand hebdomadaire de la principauté de Monaco. Et donc, il sait de quoi il parle quand il parle de ce pays ensoleillé dirigé par un prince magnifique.
C'est une densité de bancaires à Monaco qui est impressionnante. Hein. 44 banques sur 2 km carrés.
Ah oui, c'est une des densités les plus importantes de la planète. Il y a beaucoup d'argent russe qui va s'investir à Monaco, notamment dans l'immobilier, où le prix du mètre carré peut atteindre 35 ou 45 000 euros. Je pense qu'il y a des systèmes qui sont absolument hallucinants. Par exemple, vous avez la Société des Bains de Mer, qui est la société qui détient le casino de Monaco, qui est coté à la Bourse de Paris. Cette société, une fois par an, fait descendre les cadres et ses employés dans les sous-sols et leur distribue des enveloppes en numéraire. Une société cotée à Paris qui distribue du black à ses employés. Bah, ça continue comme avant. C'est comme ça, Monaco. Autre fait rigolo, vous avez les administrateurs dans les sociétés monégasques qui peuvent sortir une partie du profit que réalise la société en liquide, en cash. Donc en espèces, ça peut être des sommes énormes. Ça peut être 250, 300 ou 400 000 euros. Et ce cash, il est recyclé dans l'économie monégasque en grosse coupure. C'est encore une fois, Monaco s'est moralisé, mais il y a quand même ces pratiques qui continuent à exister. Et encore un dernier détail, quand j'étais à Monaco, en France, on a l'association des banques françaises. Vous rencontrez les banquiers, vous rencontrez les présidents de banques qui vous expliquent ce qu'ils font, etc. À Monaco, pendant un an, j'ai fait le siège de l'association des banques monégasques. Je n'ai jamais pu rencontrer le président. Jamais, jamais, jamais. La logique de la place, c'est vivons discrètement. Et à partir du moment où on vit discrètement, les capitaux viendront s'investir chez nous. Il ne faut pas parler.
D'après l'OCDE, il y a trois pays qui continuent à classer comme étant des paradis fiscaux. Il y a Andorre, le Liechtenstein et Monaco.
L'argent qui s'investit à Monaco n'est pas taxable ou il l'est dans des conditions qui sont plus avantageuses que dans le pays d'origine. Donc il y a beaucoup d'argent qui va s'investir à Monaco pour ça.
Mais oui, consolez-vous. Il est bientôt 16h, mais on y retourne demain dans ce pays ensoleillé dirigé par un prince magnifique. Merci à tous. C'était un reportage de François Ruffin. Merci à Bernard Fautrier, Laurent Nouvion et David. Merci à Didier Laurence, Sophie Divry et Vincent Chenet, Olivier Cardot et les salariés de Carrefour. À lire « Comment les riches détruisent la planète » de Hervé Kempf aux éditions du Seuil. À lire également « Monaco, un pays ensoleillé » dirigé par un prince magnifique de Didier Laurence aux éditions Hachette Littérature. Et n'oubliez pas, en kiosque, d'acheter La Décroissance, le journal La Décroissance. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission. Là-bas, si j'y suis, vous pouvez réécouter cette émission, faire les commentaires que vous souhaitez. Vous pouvez également réécouter cette émission sur là-bas.org, là-bas.org, et là aussi faire les commentaires appropriés ou non. Ce soir, Chomsky et compagnie sera projeté à l'espace Saint-Michel, à Paris, au métro Saint-Michel, à 19h50. Venez avant parce que la salle n'est pas immense et on fera un débat après si vous voulez bien nous poser quelques questions. À la technique aujourd'hui, Jean-Philippe Jeanne et Jean-Noël Vélan, c'est Koyen Guyenne et Raphaël Mouterde qui ont réalisé cette émission, Modeste Général, assisté de Charlotte Perry. Et Agnès Lebot attend vos messages au répondeur de la base si j'y suis, qui est le 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Pour tout savoir sur les salles dans votre région où passe le Chomsky et compagnie, vous allez soit sur là-bas.org, soit sur le site du film Chomsky et compagnie. On vous indique, c'est mis à jour régulièrement, les salles, les horaires. Vous pouvez voir notre film réclame.